Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, si je vous dis que c'est un art qui s'est mué en genre et qui, par son succès, s'est transformé en média de masse, vous avez levé les sourcils d'un air dubitatif. Mais si je vous dis que c'est un art littéraire et graphique séquentiel, puisqu'elle raconte une histoire grâce à ses dessins et des textes insérés dans des bulles ou phylactères, là, vous allez réaliser que nous allons parler aujourd'hui de la bande dessinée. Et je remercie Marine et Guillaume, qui tiennent une librairie de BD dans le centre de Périgueux, de bien vouloir nous parler aujourd'hui de leur métier. Marine, Guillaume, bonjour et merci de parler aux auditeurs de Radio Libre en Périgord. Comment est-ce qu'on devient libraire de BD ?
Alors, bonjour déjà. Donc, on devient libraire BD quand c'est d'abord une passion et qu'on a envie de la partager. Donc nous, on a ouvert il y a 7 ans maintenant, et on a d'abord vraiment beaucoup étudié notre projet, en fait, parce que ça faisait 2 ans qu'on cherchait à s'installer donc dans ce métier. Et du coup, le challenge est réussi, puisqu'on a tenu déjà 7 ans.
Alors Guillaume, vous avez choisi ce métier par passion? Par passion commune?
Tout à fait, effectivement. On venait tous les deux des métiers du livre. On était bibliothécaires et on a voulu se recycler d'une certaine façon, tout en restant parce qu'on est, on adore la lecture, on aime faire partager nos lectures, nos coups de cœur, etc. Donc on a voulu se recycler de cette façon. C'est original parce que c'est vrai qu'on aurait pu ouvrir une librairie. Il y a un vaste choix, en fait. On n'était pas obligé de se spécialiser. La spécialisation en bande dessinée est venue toute seule parce que c'est le domaine qui nous intéresse probablement le plus, et ça nous évite certains domaines que doivent traiter les généralistes et qui par contre ne nous parlent pas du tout. Les essais politiques, les livres qui se vendent, les best-sellers de un mois, etc. ne nous tentaient pas, donc du coup on a voulu éviter. D'accord. Ça.
C'est quelque chose sur lequel on va revenir, mais oui. Donc vous étiez orienté déjà vers le livre. Mais vous avez choisi la BD à la fois par passion, mais aussi par raison. Il y a une question que je voulais vous poser, si elle n'est pas indiscrète. Est-ce que vous êtes libraire indépendant ?
Oui, on est libraire indépendant, puisqu'on ne dépend de rien. On fait partie d'un groupement, alors qui est une association en fait, hein, qui est Canal BD, et qui regroupe les libraires indépendants de bandes dessinées de toute la France en fait. Bon, tous n'en font pas partie, mais beaucoup, une centaine. Mais c'est une association, et ça, c'est un groupement voilà, qui nous permet, de libraires indépendants, qui nous permet de résister en quelque sorte face aux grosses machines qu'on peut avoir en face, hein, comme les supermarchés, ce genre de choses.
Est-ce que vous aviez, quand vous avez abordé ce métier, déjà, vous étiez déjà dans l'industrie ou la diffusion du livre, est-ce que vous aviez déjà une culture étendue sur le 9e art, puisqu'il est convenu d'appeler l'appeler la BD comme ça depuis les années 60?
Alors, par notre formation, on avait une culture étendue sur toute la littérature, de toute façon. Enfin, on est quand même des gros lecteurs de romans, d'essais un peu, selon les sujets.
Vous auriez pu être réfractaire à la BD?
On aurait pu, oui. Ah, il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, il y a des gens qui sont réfractaires réfractaires à la BD, qui sont réfractaires à d'autres styles, d'autres formes d'art, etc. Mais non, c'est vrai que ça nous plaisait, effectivement. Je crois qu'on a grandi tous les deux un peu dedans. On avait derrière, comme on a beaucoup pratiqué les bibliothèques, etc., on avait quand même beaucoup de choix de lecture, beaucoup de possibilités de découvrir cet univers-là. Donc, on connaissait déjà beaucoup. Ensuite, on a décidé, une fois qu'on a décidé de devenir libraire BD, le temps qu'on ouvre la librairie, qu'on fasse tout le boulot, on n'a pas arrêté de lire pour agrandir et enfin pour développer justement cette culture-là. Voilà, l'avantage de la BD, c'est qu'on peut vraiment lire assez vite. C'est bête à dire, mais on peut en découvrir beaucoup dans un temps assez limité.
La lecture pour gens pressés ou pour gens qui ont une vie ou qui veulent aller à la rencontre de beaucoup de choses en peu de temps.
D'une certaine façon, oui. C'est une lecture qui peut se lire de façon, en fait. De façon rapide, effectivement, mais aussi la BD, ça se relit. On peut prendre son temps, on peut vraiment développer le rapport qu'on a avec le livre, avec l'œuvre, avec l'histoire qui est développée, avec les dessins qu'il y a dedans. On peut décider de le lire de plusieurs façons.
Puis, c'est quand même un média dans lequel... Enfin, une manière de lire sur lequel on peut, un outil de lecture sur lequel on peut revenir peut-être plus facilement que dans un livre.
Ah oui, tout à fait. En fait, relire un roman, ça se fait beaucoup moins souvent que, même si ça se fait, j'ai déjà fait, ça se fait beaucoup moins que relire une BD, ça c'est clair. Il y a vraiment enfin, une bande dessinée selon son état d'esprit, selon sa forme du moment, etc. On va l'apercevoir différemment sur une ou une deuxième lecture.
Et puis le dessin qui correspond à un style.
Et à une envie du moment aussi. Parce que, pareil, avec Marine, on a des périodes, quoi. Des périodes où on va aller plutôt vers tel style, plutôt vers tel autre. Voilà.
Alors justement, ça va nous permettre la transition. Là, on parle de style. Est-ce que Marine, vous pouvez, pour nos auditeurs, rappeler en brassant ça à gros traits, quelle est un petit peu l'histoire de la BD?
Oui, alors l'histoire de la BD, c'est très vaste.
En simplifiant, hein.
Voilà, ça commence à la fin du 19e. Voilà, après, l'histoire, c'est aussi des lieux, en fait.
Vous pouvez nous donner des étapes ou des gens qui ont particulièrement marqué une époque, voilà. Fin du 19e, qu'est-ce qui rend célèbre l'apparition de la BD?
À l'époque, en fait, les bulles n'existaient pas encore. En fait, c'était quasiment du texte avec, du texte avec l'illustration en dessus.
Vignettes.
Voilà, les vignettes. Voilà, et ça a évolué ensuite. Alors, il y a eu dans différentes parties du monde, en fait, puisqu'il y a eu le comics aux États-Unis, il y a eu le manga au Japon.
Avant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà. Après, au début du 20e siècle. En fait, là je parle en Europe, la BD était surtout considérée comme une lecture pour les enfants. En fait, il y avait très peu de BD adultes. Après, il y a eu l'époque des revues aussi, avec le journal de Tintin, il y a eu Pilote, Spirou, voilà, qui ont permis en fait de faire émerger beaucoup d'auteurs, hein, comme Franquin, comme voilà, des grands noms de la BD comme ça qui sont apparu.
Vous pouvez nous rappeler où se situe Hergé par rapport?
Hergé, voilà, c'était en amont, oui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, voilà, à ce moment-là, donc lui aussi est issu des journaux. Et ensuite, donc la BD a évolué.
L'internationalisation, à partir.
Oui, c'est ça, en fait, voilà, ça a commencé à être lu un petit peu partout, alors principalement
à la fois une internationalisation et puis une reconnaissance.
Une reconnaissance, alors pas tout de suite, hein, parce que ça restait quand même pour enfants. Quand même au début. La reconnaissance est arrivée après, hein, puisqu'il y a maintenant des auteurs BD qui ont eu, comme avec Mouse de Art Spiegelman, qui ont eu le Pulitzer par exemple, qui c'est la première BD à avoir eu un prix comme ça reconnu.
Enfin, quand il y a eu le grand manifeste, je ne me souviens plus, de la Cassin, je crois, pour la BD. Comme 9e art, ça date du début des années 60.
Voilà, et depuis, du coup, ben, la BD, alors c'est devenu de plus en plus adulte aussi. Oui. Il y a eu des choses.
C'est pratiquement à ce moment-là que se fait le passage, hein, si, parce que je me souviens, moi, quand j'étais jeune, au moment où est apparu, par exemple, une BD comme Barbarella, on disait voilà, ça y est, c'est de la bande dessinée pour adultes.
Oui, oui, effectivement. Et aux États-Unis, de même, en fait. Et ensuite, il y a eu, bon, beaucoup plus tard, dans les années, on va dire, 80. 90, apparition vraiment de beaucoup de maisons d'édition indépendantes qui vont proposer des choses assez différentes, assez décalées par rapport à la BD qui était restée quand même assez classique jusque-là. Bon, pas tout, hein, mais... Et du coup, vont apparaître vraiment des choses très surprenantes. On voit par exemple avec Vinchus qui a eu le Grand Prix Angoulême, voilà, ce genre de choses. Donc la BD a vraiment évolué au cours des décennies.
Alors justement, au cours de la 10 dernières années, ou même des 20 dernières années, on a l'impression qu'il y a une espèce d'explosion et puis que ça part dans toutes les directions. Est-ce que c'est ça qui se passe ou est-ce que...
Alors effectivement, il y a eu une explosion, on va dire sur 20 ans, il y a 20-25 ans, je crois qu'il y avait, on devait avoir 500 nouveautés par an, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, on en a plus de 5000. Alors, explosion sur plusieurs critères.
Alors, excusez-moi, c'est lié aux facilités de la micro-édition ?
Alors, non, pas vraiment, parce que de toute façon, ça reste très difficile d'être micro-éditeur en quelque sorte. Non, c'est lié à beaucoup de choses. Effectivement, des éditeurs comme l'association ou autres, quand ils sont apparus, ont commencé à ouvrir tout un pan à la BD qu'on appelle indépendante, de toute façon. Ça a effectivement fait beaucoup de petites éditions. Et maintenant, quand je parle des 5000 sorties, ça reste des très gros groupes historiques, Delcourt, Dargaud, Glénat, qui restent
là, vous citez des éditeurs européens.
Oui, tout à fait.
Et ailleurs, qu'est-ce qui se passe ?
Depuis 20 ans, on a aussi une grosse arrivée en France du manga et du comics, en fait. On a une grosse chance, c'est que je pense qu'on est probablement le pays au monde qui est le moins protectionniste, d'une certaine façon, sur la culture, qui est le plus ouvert sur la culture bande dessinée, entre autres. On est le deuxième consommateur mondial de manga après le Japon. Au niveau du comics, on est aussi très développé, justement. Donc ça aide à ouvrir d'autres pans, puisque le manga, bon, eux, ça fait 60-70 ans, ils ont réussi à développer un autre type de modèle économique, en quelque sorte. On est vraiment sur de la prépublication, des magazines, des trucs comme ça qui n'existent pas forcément chez nous. Le comics, on est beaucoup sur le magazine aussi, les petits fascicules comics que connaissent les gens, qu'on peut acheter en maison de la presse ici ou en librairie. Et on est sur d'autres modèles, mais qui connaissent quand même un regain aussi depuis 20 ans, 30 ans au Japon. Mais ceux-là sont arrivés en France, donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce gros développement de la bande dessinée et de la culture bande dessinée. On est sur plusieurs univers. Il y a un univers européen, on va dire, parce que le franco-belge, ça n'a plus trop lieu d'être comme ça. Il y a quand même aussi, il faut penser aux Italiens, aux Espagnols, les Allemands, les pays du Nord aussi se mettent beaucoup à la BD. Il y a l'univers des comics, qui est bon, celui qu'on connaît avec les super-héros, mais aussi tout le reste. Ils ont développé aussi beaucoup de comics underground ou autres qui sont très particuliers et très riche. Et l'univers du manga, en fait, c'est trois cultures très différentes et très... c'est même pas complémentaire, en fait. Elles sont toutes parallèles, hein, en fait. Il y a peu de ponts. Du coup, ça permet de développer énormément de choses.
Mais à quoi est-ce que vous attribuez, alors, cette capacité d'accueil d'un pays comme le nôtre par rapport aux États-Unis, par exemple ?
Les États-Unis ont toujours été très protectionnistes sur beaucoup de choses, de toute façon, déjà. Donc, eux, c'est le comics, c'est le film américain. C'est très dur, en fait, d'exporter. C'est culturellement un pays, quand même, qui reste assez conservateur, avec ce que ça implique de nationalisme, en quelque sorte, culturel.
Il y a eu les premiers comics qui étaient quand même assez...
Justement, les premiers comics, c'était...
Mais ils étaient underground.
Il y en a eu, non, dans les années 60-70, parce que les premiers comics réellement... Oui, mais je veux dire... ah oui, ceux qui étaient diffusés sous le manteau et autres, mais les comics officiels, en fait, restaient quand même des comics commandés par l'État, en quelque sorte.
Oui, Captain America est apparu... Très conventionnel,
oui. Oui, voilà. Captain America est apparu pour la propagande de guerre, en fait, pendant
la Seconde Guerre mondiale. Qui a été publié pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, voilà. Et puis derrière, ils ont servi le macartisme, ils ont servi le gouvernement très longtemps, en fait, en quelque sorte. Donc on est dans une autre culture et ils ont beaucoup protégé. Chez nous, en fait, il n'y a pas tellement ça, parce que déjà la BD n'était pas française en fait, elle était franco-belge au début, ensuite il y a eu d'autres apparitions, il y a eu déjà un brassage, les comics sont arrivés très vite en France puisque Lug, un éditeur lyonnais, a décidé d'importer les comics, donc ça, alors que la bande dessinée commençait à se développer, les comics se sont développés aussi en parallèle. Donc du coup, même si ça fait hurler dans les chaumières parfois, c'était quand même... ça a permis de développer en fait l'idée d'une bande dessinée mondiale en quelque sorte. Et après, il y a d'autres facteurs. En France, il y a quand même depuis 36 ans maintenant une loi sur le prix unique du livre. Ça permet justement que des librairies indépendantes existent. C'est tout bête, en fait. Le fait que ce ne soit pas que quelques grands groupes qui diffusent la culture fait que ça permet derrière une diversité plus grande au niveau justement des éditeurs, au niveau des auteurs, au niveau du choix et de la proposition en fait qui est faite au public. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs économiques, culturels, etc. qui font que effectivement là, on est dans un pays qui a la chance d'avoir vraiment une ouverture par rapport à ça. Mais on le voit au niveau du cinéma.
Et est-ce que la présence, la proximité d'une ville comme Angoulême là qui est devenue un petit peu la Mecque de la BD, est-ce que c'est une conséquence de ça, ou bien est-ce que c'est quelque chose, ou est-ce que mon expression est peut-être exagérée de votre point de vue?
Angoulême a su s'imposer comme festival, comme le plus gros festival d'Europe de toute façon de bande dessinée. Maintenant ils sont arrivés au bon moment, hein. Ça fait 42-43 ans, quelque chose comme ça, qu'ils sont là. Après bon, nous à Périgueux, je sais pas si on peut ressentir en fait un effet Angoulême, il n'y a pas...
Alors, les grands prix, en fait, les grands prix d'Angoulême, ça a un impact sur le public parce que on nous demande beaucoup qui a eu, enfin, de montrer en fait la BD qui a gagné le prix, parce que ça reste important pour les gens, en fait.
Comme les gens qui lisent systématiquement le Goncourt chaque année.
C'est ça, c'est exactement pareil. Oui, pour l'instant, c'est la référence encore en matière de prix BD.
On va peut-être passer aux contraintes de votre métier. Est-ce que dans votre métier, comme dans le reste de l'édition, il y a une déperdition énorme? Est-ce que vous avez, comme dans la littérature écrite, quand une publication sort, on sait qu'il y en aura probablement la moitié qui ira au pilon, sauf à tomber sur un best-seller?
Alors évidemment, oui, en BD comme en littérature, il y a, comme Guillaume le disait tout à l'heure, il y a tellement de sorties, de nouvelles parutions chaque semaine, à peu près une centaine par semaine. Effectivement, sur la totalité, il y a beaucoup de choses qui vont partir au pilon, effectivement. Nous, étant spécialisés, on essaie un maximum de garder beaucoup de fonds, en fait, de ne pas se centrer uniquement sur les nouveautés, mais de vraiment garder en rayon les choses qui nous paraissent importantes, qu'on a aimées ou pas parfois, mais pour lesquelles on pense que voilà, ça peut plaire à beaucoup de gens parce qu'il y a quand même un fond intéressant. Donc voilà, nous on essaie vraiment d'avoir un fond très conséquent pour pouvoir proposer un maximum de choses. Mais évidemment, sur la totalité, on fait aussi beaucoup de retours, malheureusement, aux éditeurs qui vont ensuite pilonner.
Alors, quelles sont vos sources d'informations? Comment est-ce que vous décidez de mettre en vente telle ou telle BD?
Alors, vous voulez dire pour les nouveautés?
Oui.
En fait, on reçoit régulièrement des représentants qui viennent nous parler des nouveautés à paraître dans les mois à venir. Et donc, ils nous présentent chaque titre, nous racontent l'histoire, nous montrent des visuels. Et grâce à ça, on fait notre choix. Nous aussi, en fonction du public qu'on a, qui ne va pas être le même qu'à Bordeaux ou qu'à Paris ou qu'à Aurillac. Donc, chaque ville a ses spécificités, chaque librairie aussi. Donc nous, on choisit en fonction de notre public, de ce que nous, on veut proposer aussi, des choses qu'on voudra mettre en avant, d'autres un peu moins, donc on fera des piles plus ou moins hautes en fonction de ça aussi.
Est-ce que Guillaume, vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les tendances actuelles qui vous paraissent porteuses, et puis aussi sans doute nous parler de la vogue de BD étrangères, en particulier des mangas japonais, quoi, vous l'attribuez, et puis peut-être aussi revenir sur ce qu'a dit Marine, à savoir qu'il y a des spécificités de public suivant les endroits. Alors, Si vous pouvez nous dire un peu ce qui caractérise le public périgourdin, ce sera très utile.
Alors, c'est même encore pire que ça. On n'a pas le public périgourdin, on a un public périgourdin de librairies spécialisées. Puisque, voilà, on a quand même une concurrence dans les librairies généralistes, généralement plutôt des grandes surfaces commerciales ici. On n'arrive pas, nous, en tant que libraire ici, à dégager une tendance qu'on pourrait qualifier de nationale ou quoi que ce soit, parce qu'on ne sait pas, en fait. On voit ce qui peut plaire ici, on voit que nous, notre public, c'est... Bon, on a des jeunes, on a des personnes plus âgées, le gros du public, on va dire, a entre 30 et 50 ans. Mais après, c'est vrai que du coup, voilà, on a plusieurs... on a ceux qui viennent et qui savent exactement ce qu'ils veulent, c'est généralement le cas, mais derrière, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent chez nous parce qu'ils cherchent du conseil. Et du coup, en fait, j'aurais tendance à dire qu'il y a des tendances qui sont subies, enfin qu'on subit, mais il y a des tendances qu'on peut essayer de faire aussi, d'une certaine façon. On se rend compte, il y a 5000 BD qui sortent par an, il y en a 100 qui nous plaisent vraiment. Et qu'on va conseiller, qu'on va mettre en avant, qu'on va... Donc du coup, c'est aussi... La tendance dépend des libraires, en fait. Je sais pas, à Brive, à côté, il va pousser telle BD, nous on va pousser celle-là, à Bordeaux, ils vont pousser une autre, et alors, ça va vraiment être...
Alors, vous voulez dire que ça correspond au goût, dans une certaine mesure, au goût des libraires?
D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. Il faut aussi savoir s'adapter au goût des gens. Hein. On ne va pas leur mettre dans la main un polar s'ils adorent l'historique. On s'adapte de toute façon. On sait conseiller dans toutes les palettes et dans tous les styles, effectivement. Mais c'est vrai que des tendances, après, on en voit selon le marché. Dernièrement, il y a eu énormément de biographies qui sortaient en bande dessinée. C'est simple, la déduction est simple, il y en a une ou deux qui ont beaucoup marché. Derrière, tous les éditeurs ont lancé leur collection de biographies qui ont marché ou pas. Voilà, il y en a qui marchent.
Est-ce que quelquefois vous avez des surprises?
Ouais, il y a des mauvaises surprises, des BD dans lesquels on croyait qui vont se retrouver être des flops. Voilà, très difficile à conseiller. Alors, on sait pas pourquoi, sujet trop difficile, dessin trop particulier, etc. Ça dépend. Et il y a des très bonnes surprises, des BD qu'on n'attendait pas, qui paraissent un peu classiques. La dernière en date, mais là, pour le coup, ça a été au niveau national, chez tous les collègues, etc. Les dernières en date, plutôt, sont, par exemple, Les Vieux Fourneaux, qui est une BD classique dans son format, 48 pages, un dessin assez classique, mais qui est très drôle, très cynique, très, très mordante et magnifique, et qui a énormément trouvé son public, qui nous a fait plaisir parce que c'était un auteur qu'on aimait beaucoup, qui a réussi à exploser, mais alors contre toute attente, avec une BD assez particulière, même l'objet, même le sujet, et même le titre, puisqu'elle s'appelle Zai 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 Zai, on est vraiment sur quelque chose... Sur un petit phénomène qui est apparu aussi. Enfin, c'est des phénomènes de librairies indépendantes. Oui, complètement. Oui, en fait, là, pour le coup, les grandes surfaces culturelles ne créent pas de phénomène. Là, par contre, le phénomène est attendu. En fait, un Astérix sort, il s'en vend 2 millions, c'est normal.
Utiliser essentiellement des choses qui sont déjà reconnues.
Tout à fait. Ou qu'on a fait reconnaître.
Ou qu'on a fait reconnaître. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la manga? Oui. À quoi vous attribuez ce succès, cet engouement durable de la manga japonaise auprès des jeunes?
Je pense l'anime, en fait. Beaucoup. Enfin, le premier support, ça reste le dessin animé. Nous, on l'a découvert, du coup, les générations de 30-40 ans l'ont découvert sur Antenne 2.
Les dessins animés les jeunes, enfin pour les enfants, et qui ensuite se prolongent par le style des mangas.
Il y en a aussi, du coup, maintenant encore, puisque beaucoup d'animés passent sur les chaînes Gulli, Bibi, etc., France 4 et autres. Et effectivement, en fait, le manga, ouais, alors au Japon, sort d'abord en livre et est très vite adapté en animé si ça fonctionne. Ici, c'est presque parfois l'inverse. L'animé va commencer à apparaître à la télé avant que le manga soit adapté en français et sorti en librairie. Mais on voit en fait que vraiment les mangas, certains sont vraiment soutenus par la réussite du dessin animé derrière. Et le manga est, en fait, c'est très dynamique, c'est presque cinématographique. Ça fait depuis 30-40 ans que ce style existe de cette façon-là. Le manga avant était plus statique, on était plus dans de la BD classique en quelque sorte, et ils ont réussi à développer un style qui est très différent. Et je pense
qui coexiste avec un style plus classique qui existe aussi au Japon avec des représentants reconnus. Hein.
Oui, il en est. Oui, tout à fait. Les Taniguchi et autres. Mais là, on est sur un public justement qui est plus sur la ouvert aussi à la BD européenne, etc. Quand je parle de manga dynamique, autre. Oui, effectivement, je pense à ce qu'on appelle les shonen. Nous, on a connu Dragon Ball. Maintenant, il y a eu la période de Naruto, il y a les One. On est vraiment sur de l'épisode et sur des cycles. Donc, et en même temps, l'histoire est développée très très lentement et très différemment de la façon dont on va nous amener une histoire dans la bande dessinée européenne ou américaine.
Les relations entre la BD et le cinéma, c'est Marine qui est la spécialiste.
Non, mais je veux dire, on est enfin sur les.
Les relations, y en a beaucoup. Puisqu'il y a beaucoup de BD adaptés au cinéma, et inversement, des BD qui sont tirés de films ou de romans. Donc ça, il y en a beaucoup avec le comics, en fait, hein, ça commence là, parce que voilà, les super-héros qui existent en BD sont...
Mais pas seulement, hein, western aussi.
Oui, pas seulement, en BD également. Guillaume parlait tout à l'heure des Vieux Fourneaux, ça va être effectivement adapté au cinéma. Voilà, beaucoup de BD qui ont trouvé leur public, qui ont du succès, sont adaptés au cinéma.
Je voudrais pour terminer vous demander quels sont vos goûts personnels pour le dessin, pour la BD.
Alors moi personnellement, la BD que je mets au-dessus des autres, c'est Blast de Manu Larcenet, qui est une BD très dure, très noire, mais que je trouve absolument magnifique, et en 4 volumes chez Dargo. Et voilà, pour moi c'est une des meilleures BD que j'ai lues.
C'est le dessin, pas l'histoire.
Ah si, les deux. Ah oui. Ah ben la BD c'est un art complet, donc le dessin aussi important que l'histoire.
On va retenir ça. Et Guillaume,
au risque de paraître peu original, pareil, c'est Blast. On est vraiment sur le même avis. C'est une claque incroyable. C'est très sombre, très dur, mais c'est quelque chose qui parle énormément. Après, c'est vrai que définir des goûts, à une époque je pouvais le faire, mais c'était avant d'être libraire BD, parce que maintenant je me rends compte que je découvre des chefs-d'œuvre dans tous les style, que ce soit polar, historique, que ce soit BD européenne, américaine, etc. Mais c'est vraiment maintenant, je n'arrive plus à définir mon goût, en fait. Je sais pas comment dire. Si je devais faire une bibliothèque idéale, il y aurait vraiment de tout, il y aurait vraiment dans tous les genres. Alors évidemment, comme disait Marine, oui, dessin et scénario, parce que une BD avec un dessin magnifique mais un scénario inexistant est totalement inintéressant. Une BD avec un dessin atroce malgré le scénario, ça sera pas possible non plus. En fait, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre. Oui.
Une dernière petite question, est-ce que votre métier vous laisse le temps d'avoir d'autres passions?
En ce moment, non. Pas vraiment. C'est pas que le métier, c'est la vie de famille aussi, c'est les enfants et tout ça, donc ça nous laisse... je pense que le métier pourrait nous laisser le temps d'avoir un peu d'autres passions, quand même. Mais c'est vrai qu'en fait, le soir, on lit des BD pour les conseiller. Le week-end, on lit des BD. Mais bon, on va pas s'en plaindre. On a choisi ce boulot. On a la chance de faire partie des gens qui ont choisi leur boulot. Déjà, ça, c'est bien. Et c'est vraiment... c'est prenant, mais c'est vraiment bien.
Marine, comme pour la BD préférée, vous êtes sur la même longueur d'onde que Guillaume?
Ah, oh bah oui, puisque.
Sur les autres passions que vous pouvez exercer en dehors de votre métier.
Ah, oh, j'en ai aussi, mais c'est vrai que, voilà, de toute façon.
Vous les mettez en réserve en attendant d'avoir le temps de.
Non, pas vraiment, mais c'est vrai que, voilà, pour moi, la BD, c'est une passion, donc ça. Et il se trouve que c'est aussi mon métier, donc c'est une chance.
Pour l'instant, c'est tout pour la BD. Marine, Guillaume, merci beaucoup d'avoir appris tant de choses à nos auditeurs et bonne chance pour votre métier. C'était Tranche de vie, une émission composée par Jean-François.